La première, podcast.
Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Il avait la taille haute, le teint livide, le corps mal proportionné, le cou et les jambes tout à fait grêles, les yeux enfoncés et les tempes creuses, le front large et torve, les cheveux rares et le sommet de la tête chauve, le reste du corps velu. Aussi, lorsqu'il passait, était-ce un crime capital de regarder au loin et de haut, ou simplement de prononcer le mot chèvre pour quelque raison que ce fût. Quant à son visage, naturellement affreux et repoussant, il s'efforçait de le rendre plus horrible encore en étudiant devant son miroir tous les jeux de physionomie capables d'inspirer la terreur et l'effroi. Voilà le portrait sans retouche, mais sujet à beaucoup de cautions, que fait l'homme de lettres que fut Suétone entre le 1er et le 2e siècle dans sa vie des 12 Césars, le portrait de Caligula.
Un jour dans l'histoire.
Caligula, l'empereur le plus dépravé, le plus cruel et le plus perfide.
Pour évoquer cette figure ô combien polémique aujourd'hui, c'est Bruno Rochette qui est avec nous. Bonjour Bruno Rochette.
Bonjour Laurent.
Vous êtes professeur de langue et littérature classique à l'ULG, président du comité de gestion du CEDOTA, le centre documentation de papyrologie littéraire. Alors Caligula naît probablement le 31 août de l'an 12 après Jésus-Christ, sans doute à Antium, près de Rome, troisième fils de Germanicus, neveu et fils adoptif du futur empereur Tibère, et d'Agrippine, petite-fille de l'empereur Auguste. C'est une très très belle ascendance. Qui est son père Germanicus?
Alors Germanicus est un personnage considérable. C'est un personnage qui a fait une brillante ascension, très rapide, surtout donc en tant que chef militaire. Il a participé à des expéditions militaires extrêmement importantes, notamment en Germanie, en 13 et au début de 14, où d'ailleurs son épouse ainsi que ses enfants donc l'ont rejoint. C'est assez curieux, mais c'était une pratique qui avait cours dans l'Antiquité. Et donc Caligula a passé une partie de sa petite enfance dans les camps de Germanie, où il a donc pu découvrir ce monde qui devait tout de même être tout à fait fascinant pour un petit garçon, tout très jeune, des légions romaines, où tout ne se passait d'ailleurs pas très bien, parce que il y a eu des mutineries tout à fait importantes. Donc la familiarité de Caligula avec les soldats a probablement eu une influence sur son comportement lorsqu'il devint empereur. Une certaine, on a expliqué un peu, on a cherché des explications à cette, à ce comportement
un peu sauvage.
Un peu sauvage, oui, un égocentrisme exacerbé aussi. Il se considérait un peu comme le centre du monde, donc des explications évidemment qui vont un peu dans tous les sens, c'est très complexe.
On y reviendra tout à l'heure à cette prétendue folie de Caligula. C'est de la fréquentation donc, de ces camps militaires que lui vient aussi son surnom, justement Caligula.
Oui, probablement.
C'est un petit godillot, c'est
ça ? Oui, tout à fait, oui.
Ce que portaient les soldats et que l'on adaptait à la taille du petit pied de celui qui s'appelait Caius Germanicus.
Voilà, c'est ça, oui.
Alors, on est encore sous le règne d'Auguste, le premier empereur donc romain. À cette époque, Rome est un principat. Qu'est-ce que c'est qu'un principat ?
Ben, Rome, s'est transformé en très peu de temps, à la suite donc des guerres civiles qui ont émaillé tout le premier siècle avant, qui a été extrêmement chaotique, et donc avec l'avènement d'Auguste, le régime a changé du tout au tout, puisqu'on est passé d'un régime républicain, au sens romain du terme évidemment, à un régime autocratique, où tous les pouvoirs sont centralisés entre les mains de l'empereur, qui peu à peu donc dirige, il n'est pas seul évidemment, mais à la haute main sur l'ensemble des décisions qui doivent se prendre. Donc la gestion de cet immense empire est extrêmement complexe et on va assister très vite à des dérives, puisque déjà le successeur d'Auguste, c'est-à-dire Tibère, ouais, était tombé dans une sorte d'abus de pouvoir à certains moments. Il avait laissé un très mauvais souvenir et donc ça va se répéter durant tout le premier siècle. Donc au fond, toute la dynastie des Julio-Claudiens se caractérise par cette volonté de tout diriger, mais de façon extrêmement autocratique. Et chez Caligula, on a un peu comparé cela au pouvoir des monarques orientaux, mmh, donc qui veulent absolument être presque considérés, et ce fut le cas pour Caligula. Il a voulu être considéré de son vivant comme un dieu, ouais, qui avait donc le pouvoir absolu.
Hein. On va revenir à la succession d'Auguste, donc Tibère pour succéder à Auguste qui meurt le 19 août 14, et on va voir quels sont les rapports aussi entre Tibère, Germanicus, et puis plus tard entre Tibère et Caligula. Nous sommes avec Bruno Rochette pour évoquer cette figure donc de Caligula.
Je vis, je tue, j'exerce le pouvoir délirant du destructeur auprès de quoi celui du créateur paraît une singerie. C'est cela le bonheur.
Il veut notre mort à tous!
Ce n'est pas la première fois que chez nous un homme dispose d'un pouvoir sans limite, mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde.
Un jour dans l'histoire.
Extrait de la pièce de Camus, Caligula, interprété ici par la Comédie Française en 1992. Bruno Rochette est avec nous. Alors on le disait, c'est Tibère qui va succéder à l'empereur Auguste. Tibère qui a des rapports assez aimables, je dirais, avec Germanicus. Il a à la bonne, si on peut dire, Bruno Rochette.
Oui, tout à fait. Oui, il entretient des rapports cordiaux. Il faut dire que pratiquement tous les empereurs vont connaître des problèmes de succession. Donc c'est extrêmement complexe, les rapports qui s'instaurent entre les personnages de haut rang qui gravitent autour de l'empereur sont extrêmement complexes. Il y a des rapports de force. Le Sénat existe, mm-hmm, toujours. Donc les sénateurs sont toujours là, comme à l'époque républicaine. Ils n'ont plus évidemment le même pouvoir, mais ils veulent le conserver. Et il y a on pourrait parler presque de coteries, hein, donc
des réseaux
mm-hmm, qui vont soutenir tel personnage plutôt que tel autre. Vous avez aussi des intrigues, bien entendu, il y en aura. Pour la succession de Tibère, il y a le fameux Séjean, le préfet du,
ouais,
prétoire,
on en reparlera,
qui est,
oui,
extrêmement, extrêmement puissant. Et donc, on va retrouver à peu près le même scénario pour toutes les successions des Julio-Claudiens. Ça va un petit peu se simplifier par la suite. Et il faut dire aussi, évidemment, que ces empereurs n'ont pas toujours eu beaucoup de chance, parce que leurs héritiers directs, soit ils n'en ont pas, ou bien alors ils meurent prématurément. Donc il y a toujours des problèmes, mmh, au fond qui se posent, des problèmes qui sont du reste aussi recherchés par certaines personnes, bien entendu. On veut que ce soit, ouais, complexe, hein, pour pouvoir éventuellement arriver à ses fins, bien entendu.
Et Tibère, cet empereur va confier à Germanicus, le père de Caligula, donc le commandement général de l'Orient romain. Le 10 octobre 19, Germanicus meurt à Antioche, qui est actuellement en Turquie, à la frontière syrienne. La famille est présente. Alors, il semble que la mort de Tibère est naturelle, mais Agrippine, donc la mère de Caligula, soutient que son mari a été empoisonné. Et il y aurait derrière cela un calcul politique, quel est ce calcul ?
Oui, bien entendu. En plus, donc, de tous ces problèmes que j'évoquais brièvement, il y a des assassinats, des empoisonnements. Tout ça est extrêmement complexe et les sources sont parfois délicates à interpréter à ce sujet. Il faut dire que tous les textes que nous avons sont pratiquement défavorables. Aux empereurs, notamment Suétone, que vous citiez tout à l'heure, il est idéologiquement opposé, disons, à la conception du pouvoir des Julio-Claudiens, parce qu'il est écrit sous une autre dynastie qui a restauré un peu, disons, le système qu'il a un peu assaini, en quelque sorte. Et donc, il a eu tendance, certainement, à grossir certains traits négatifs et nous avons beaucoup de points d'interrogation en réalité qui entourent, ce sera encore le cas à l'époque de Néron, autre figure évidemment extrêmement complexe.
Le calcul en tout cas d'Agrippine aurait été de faire peser les soupçons du meurtre de Germanicus sur Tibère, de le discréditer. Il faut savoir que Caligula est le troisième dans l'ordre de succession. Ce calcul n'est pas tout à fait convaincant. Tibère va choisir un autre allié que Germanicus et un allié beaucoup moins scrupuleux. Vous l'avez déjà un peu évoqué, Bruno Rochette, c'est Jean qui est un personnage sombre et très très sombre.
Oui, tout à fait. C'est un peu le rôle de tous les préfets du prétoire. Donc, préfet du prétoire est une fonction extrêmement importante, qui est un peu, au fond, la deuxième fonction après celle de l'empereur, même si les paramètres sont tout à fait différents, mais ces personnages sont extrêmement influents. Et donc, ils cherchent en général des appuis, non pas du côté des familles aristocratiques, parce qu'ils n'ont pas, en général, ces préfets du prétoire, la naissance. C'était le cas de ces gens qui les destineraient directement au pouvoir impérial. Ils sont de naissance plus modeste, donc ils s'appuient plutôt sur le Sénat en général, sur les sénateurs ou sur d'autres classes sociales à Rome. Donc ce fut le cas de ces gens, mais qui a été donc discrédité à un certain moment, puisque il a été exécuté en 31.
Ouais, et le peuple haïssait tant qu'il a traîné, dit-on, son corps dans les rues de Rome et jeté son corps dans le Tibre. Alors, Tibère meurt le 16 mars 37, Caligula lui succède. Pourquoi Caligula, puisqu'on dit qu'il était le troisième dans l'ordre de succession?
C'est ça, il y a eu donc là quelques années, cinq années et demie même, où se joue donc le destin de Caligula. J'évoquais tout à l'heure les difficultés de succession. Donc chaque fois qu'un empereur meurt, la plupart du temps de façon assez violente, du reste, très rarement de mort naturelle, ou alors en plus de la mort naturelle, on ajoute des détails violents, disons. Il y a en général des problèmes. Et donc depuis déjà 33, Caligula faisait figure d'héritier désigné, mais effectivement, il y avait plusieurs candidats à cette succession, dont Gemellus, mais qui était encore mineur. Donc le testament de Tibère, il y avait un testament, mais qui a été contesté, était en faveur de son petit-fils, donc de Gemellus, mais qui était encore mineur. Donc on s'est tourné alors vers Caius, qui était le deuxième du nom, puisque il avait un frère. Il faut dire que Germanicus et Agrippine avaient eu 9 enfants.
Ouais. Quoi qu'il en soit, Caligula prend le pouvoir à 26 ans, donc là on est en 37 de notre ère. Au début, ça se passe plutôt bien. Caligula est un empereur populaire, les soldats l'aiment par exemple.
Tout à fait. Donc c'est le Sénat qui se réjouit au fond de cette solution. Et donc effectivement, on donne le maximum de pouvoir à Caligula. Il est accueilli avec une grande joie, effectivement, les soldats. qui se souviennent peut-être
du petit gamin,
certainement, ce sont certainement des bruits qui courent dans les légions. Les soldats se réjouissent, et c'est aussi un scénario qui est assez banal au fond. À peu près tous les empereurs donnent au début donc de leur règne des espoirs de renouveau. Pas oublier que tout cela se fait en contraste avec l'empereur précédent, et Tibère avait vraiment laissé un souvenir détestable, hein, puisque on avait jeté son corps dans le Tibre. Hein. Il y avait eu cette fameuse phrase à Rome, Tibère au Tibre. Hein. Donc le peuple était vraiment déchaîné, très déçu. Et donc Caligula donnait effectivement un espoir de renouveau. Et ce fut le cas aussi pour Néron, un peu plus tard, que l'on avait vraiment instruit en vue du pouvoir. Ouais. Mais malheureusement, la déception fut grande.
C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Nos dirigeants nous donnent beaucoup d'espoir au
Bien
début
sûr,
de leur mandat.
Oui, voilà.
Caligula va rappeler les bannis notamment. Il va publier le budget de l'Empire. Il veut rendre au peuple un droit de suffrage. Il organise des jeux, des divertissements extraordinaires. On va voir avec vous, Bruno Rochette, que les choses vont considérablement se gâter.
Je t'ai vu de jour en jour devenir monstrueux, un par un. Je t'ai vu assassiner les tiens et tes amis les plus nobles des Romains.
C'est de la trahison, Nerva.
Non, c'est la vérité. Je demeure, comme par le passé, encombré d'ennemis, au sein même de ma famille, et aussi au Sénat. Tu es cruel. Non, honnête. Les vieillards voient parfois dans l'avenir. Quand je songe à tous les maux passés et à tous les maux qu'on me réserve, je sens qu'il faut que je m'échappe.
Le Caligula de Tinto Brass, ici, c'est Malcolm McDowell qui incarne cette figure. Tinto Brass qui s'est beaucoup concentré sur le goût pour la luxure, dit-on, de Caligula. Alors nous sommes avec Bruno Rochette. L'âge d'or de Caligula ne va pas durer, on l'a dit. Empereur à 26 ans, une autorité qui s'étend sur près de 80 millions d'individus. J'ai pouvoir sur tout et sur tous, disait-il. En tout cas, lui fait dire Suétone. Ce qui semble assez probable, Bruno Rochette, c'est que Caligula a voulu rompre, vous le disiez, avec un passé, en fait.
Oui, sûrement. Il a voulu rompre avec le passé de Tibère, sûrement. Et l'explication de ce revirement, de cette dégradation de son comportement est assez complexe. En réalité, on ne l'a pas. On la cherche. Les historiens l'ont cherché. Et donc, il y a la fameuse folie, la maladie donc de Caligula, qui semble être plus... Il y a certainement une part de vérité, mais plus une légende, en tout cas une exagération, que une vérité historique. Il fut certainement le plus accablé des Julio-Claudiens par les sources, donc pas seulement dans l'Antiquité, mais dans toute la tradition. On a ajouté des détails et donc on a certainement grossi la réalité.
Ce qui semble assez certain, c'est que Tibère faisait preuve, disons, d'une plus grande humilité que Caligula et avait repoussé les velléités de déification. Ce ne sera pas le cas de Caligula qui, lui, véritablement, encore une fois, selon les sources, s'érige en Dieu.
Tout à fait. Il est fasciné par l'Orient. Et donc, on a un peu comparé, je le disais tout à l'heure, son pouvoir absolu à celui d'un monarque oriental. Donc il voulait un peu se comparer avec les pharaons égyptiens, sans le dire de façon explicite, mais beaucoup de Romains, donc pas seulement donc des empereurs, mais étaient fascinés par l'Égypte, par l'Orient en général, mais spécialement par l'Égypte, et donc par ce pouvoir absolu qu'avaient les pharaons, et surtout donc par cette assimilation de ces monarques orientaux avec des dieux.
Ouais. Il converse avec les dieux directement, avec Jupiter notamment, Caligula.
Tout à fait. Il se considère lui-même à l'égal d'un dieu. Il fait placer d'ailleurs des statues dans les résidences à Rome, dans la ville en général. Il a contribué d'une certaine façon à l'embellissement par cette volonté d'assimilation aux grandes divinités du panthéon romain, à l'embellissement de la ville sûrement.
Et l'on dit donc qu'il avait, vous le disiez, ce goût pour les pharaons notamment, et que c'est pour cela qu'il aurait eu, là encore une fois, il faut mettre le conditionnel, des relations incestueuses avec l'une des ses sœurs pour justement ressembler aussi au pharaon.
Oui, tout à fait. On a bien mis en évidence ce trait tout à fait spécifique, donc des relations incestueuses. Je pense même avec toutes ses sœurs, si on en croit les sources. En plus, donc, il faut ajouter cela à d'autres détails comme des mariages en grand nombre. Tout à fait. Oui, c'est certainement aussi un trait qui le rapproche des pharaons égyptiens.
Et cette luxure qu'on a souvent mis en avant, ces orgies, est-ce que elles sont propres à Caligula ou est-ce une ambiance, je dirais, de Rome à l'époque? On est très libéré dans ses mœurs.
Oui, certainement. La conception donc des mœurs dans la Rome antique est fort différente de la conception que nous avons aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est quand même ici un des premiers, disons, à avoir... Il n'est pas le dernier, mais c'est un des premiers, disons, à avoir accentué vraiment cette caractéristique. N'oublions pas que Auguste avait voulu restaurer la morale, n'est-ce pas? Il y a des lois d'Auguste sur le mariage, etc. Il avait voulu remettre un peu d'ordre dans les mœurs, donc c'est déjà un indice montrant qu'il y avait eu des dérives. Il n'avait pas bien réussi, il faut bien l'avouer, parce que dans son entourage, peu de personnes, voire aucune personne, n'avait suivi ces règles. N'oublions pas qu'il avait exilé Ovide, très probablement pour ses écrits donc sur l'amour, hors mariage. Et donc, il y a eu effectivement très rapidement des dérives dans ce sens. C'est un peu aussi une image d'Épinal que l'on a retenue. Quand on voit donc des péplums, etc., on met assez volontiers en évidence des caractéristiques de ce type-là. Probablement exagérées aussi par les sources. N'oublions pas que nous sommes tributaires de sources et, j'insiste, sont des sources tendancieuses.
Oui. Et aujourd'hui, les historiens tentent de remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Nous sommes avec Bruno Rochette autour de cette figure donc, qui pose encore question et qu'il faut remettre en question aujourd'hui, Caligula.
Ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui, c'est d'avoir fait un petit progrès sur la voie de la puissance et de la liberté. Pour un homme qui aime le pouvoir, la rivalité des dieux a quelque chose d'agaçant. J'ai supprimé cela. J'ai prouvé à ces dieux illusoires qu'un homme, s'il en a la volonté, peut exercer sans apprentissage leur métier ridicule.
C'est cela le blasphème qu'a eu ?
Non, Scipion, c'est de la clairvoyance.
Jusqu'à 14h30, un jour dans l'histoire, sur la première.
À son cheval, in situ tous, outre une écurie de marbre et une mangeoire en ivoire, il fait donner une troupe d'esclaves et du mobilier. On dit qu'il projetait de le faire consul. Voilà encore, Bruno Rochette, l'une des nombreuses légendes qui tournent autour de cette figure de Caligula. Alors, la folie, vous le disiez tout à l'heure, c'est ce qui semble bien ancré. On a quand même retrouvé des traces dans son enfance de crise d'épilepsie, par exemple. On essaie de l'expliquer comme ça, mais il y a aussi, sans doute, peut-être, le vertige de ce pouvoir absolu.
Ah oui, tout à fait. Donc effectivement, Caligula était certainement malade, et donc l'épilepsie est certainement une réalité, mais elle ne peut tout expliquer, bien entendu. Et je parlais aussi tout à l'heure du contexte dans lequel il a grandi. Bon, ce sont évidemment des données qui l'ont certainement... qui ont certainement accentué donc cette prétendue folie. Ouais. Mais vous parliez à juste titre de ce vertige que peut procurer donc un pouvoir comme celui détenu par un empereur romain. Et donc là, je ne saurais trop insister sur cet aspect. Sénèque a bien mis en exergue cet aspect dans un traité intitulé « Sur la clémence hein. ». Oui. Il dit, donc c'est Néron qui est concerné ici, mais le problème est exactement le même. Il fait parler donc Néron en lui faisant dire « je suis épouvanté par le pouvoir qui est le mien et par le nombre de personnes qui sont sous mon autorité ». Donc il faut dire que ce pouvoir est enivrant et qu'il est aussi extrêmement complexe à exercer.
Mmh. On dit aussi que Caligula, au cours d'un banquet, aurait éclaté de rire, et les sénateurs qui étaient proches de lui lui demandent « mais pourquoi ?» Il aurait répondu « mais parce que je suis en train de songer que d'un seul mot de ma part, je pourrais vous faire tuer ». Donc là aussi, vertige du pouvoir. Quels sont ces rapports justement avec les responsables politiques? On dit qu'ils ridiculisaient le Sénat, qu'ils prostituaient même les épouses des sénateurs. Alors là aussi, le vrai du faux?
Oui, je pense qu'il faut aussi faire ici un peu la part des choses. Et donc, il y a certainement eu une part d'exagération. Mais effectivement, le pouvoir d'un empereur romain est un pouvoir absolu. Et donc, il détient absolument le pouvoir de ce qu'on appelle l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir de vie et de mort sur tous les sujets. Qui sont sous son autorité, donc absolument tout le monde.
Alors c'est une autorité malgré tout qui sera contestée puisqu'il y a plusieurs conspirations. Après un règne de 3 ans et 10 mois, en l'an 41, Caligula est assassiné par des soldats de sa garde. Il est donc dans sa 28e année. Qu'est-ce qu'on sait de ce crime? Qui l'a commandité? Est-ce qu'on le sait ça?
Et c'est très difficile aussi. Donc il meurt en janvier 41. À la suite, effectivement, d'une conjuration. Il est assassiné le 24 janvier 41, donc après un règne qui fut fort bref. Et donc, il y a là, manifestement, une opposition très nette et qui s'explique assez facilement, assez logiquement, entre les sénateurs et le prince lui-même. Donc, vous parliez de ce mot... il rappelait donc le pouvoir absolu qui était le sien, le pouvoir de vie et de mort. Donc vous imaginez bien que de la part des sénateurs, qui sont des personnages considérables eux aussi, et qui, bien entendu, prétendent au moins une part de pouvoir, s'entendre dire de tels propos est très difficile. Donc, il est clair que cela a certainement généré des volontés donc de suppression de ce prince. Mais il faut aussi souligner que parmi les sénateurs, tout le monde n'est pas unanime. Donc, il y a différentes factions. Hein. Ouais. Et ici, manifestement, il y avait... deux camps parmi les sénateurs. Et donc, d'après les sources, nous n'avons pas de traces de sénateurs qui se seraient personnellement mouillés, impliqués donc, dans cette conjuration. Donc, ils ont commandité certainement ce crime.
Caligula ne laisse d'autres enfants, pense-t-on, qu'une fille, Julia Drusilla, qui est âgée de 2 ans, qui sera d'ailleurs assassinée avec sa mère, Kenia. Alors, qui pour succéder à Caligula? C'est Claude, son oncle. Claude qui, au fond, va avoir un lien direct avec ce fameux Néron que vous évoquiez, Bruno Rochette.
Oui, tout à fait. Donc, à nouveau, donc, le problème de succession se pose. Et donc, de la gens Julia, on repart vers la gens Claudia, puisque ces deux familles donc, sont liées. Hein, il y a donc la gens Julia... qui descend directement de Jules César et d'Auguste. Et puis alors, il y a une gens Claudia qui est venue se greffer. Il y a aussi des adoptions, c'est extrêmement complexe. Et on est obligé, effectivement, d'aller rechercher Claude, qui lui aussi va laisser un souvenir très négatif. Mmh. Hein. Il y a des écrits... extrêmement négatif à son sujet. À nouveau, donc, sous la plume de Sénèque, il y a une satire tout à fait explicite, là, où il est ridiculisé. Donc, hein, mais ce sera tout à fait différent.
Claude qui épousera la sœur de Caligula, Agrippine, la jeune, donc, qui sera elle-même la mère du futur Néron, dont on aura sans doute l'occasion de parler ici. Merci beaucoup, Bruno Rochette, d'avoir été avec nous aujourd'hui.